8h21, nous retrouvons notre invité Patrick Artus, chef économiste, membre du comité exécutif de Natixis. Dans le tableau de l'économie mondiale, Patrick Artus, il semble y avoir quelque chose de clair. Le partage des richesses est de plus en plus inégalitaire et cette réforme fiscale qu'a lancée Donald Trump pourrait plus encore profiter aux riches, profiter également aux entreprises qui font de gros bénéfices. Et selon vous, même si la bourse a un peu baissé la semaine dernière, il n'y a pas véritablement de péril en la demeure pour la bourse américaine, pour Wall Street, et donc pour l'économie plus globalement. Si on se tourne cette fois-ci vers la France, par rapport à ce que vient de dire d'ailleurs Frédéric Seitz, le film est un peu différent parce que j'ai là une suite de nombres qui correspondent aux emplois qui vont être supprimés dans un certain nombre d'entreprises françaises. 2400 emplois supprimé chez Carrefour. On a appris hier qu'il allait y avoir 409 emplois et supprimés chez Castorama et Brico Dépôt. Pinky, 200 emplois. Donc beaucoup d'emplois supprimés dans la distribution. Qu'est-ce que ça signifie, Patrick Artus ?
Bon, d'abord, je ne crois pas que ça soit lié aux réformes du marché du travail. Hein. Honnêtement, la technologie a un peu changé. Hein. On peut faire des ruptures conventionnelles collectives, mais avant, on pouvait faire des plans de départ volontaires. Et donc, je ne crois pas que ce soit le changement des règles du marché du travail du tout qui explique cela. Je crois on voit un phénomène dans la distribution qui est plus global que ça. Je pense que, globalement, et pas seulement en France, nous n'avons pas commencé ce que les économistes pourraient appeler la dynamique schumpeterienne. C'est quoi la dynamique schumpeterienne ? C'est qu'il apparaît de nouvelles technologies. Dans la distribution, c'est le commerce en ligne, hein, donc c'est Amazon et les autres, et que ces nouvelles technologies, pour l'instant, ont voisiné avec les vieux acteurs. Et qu'à un certain moment, ces vieux acteurs vont commencer à beaucoup souffrir. Et ceux qui basculeront dans les nouvelles technologies ou qui sauront les adapter à leurs besoins, eh bien, survivront. Ceux qui n'arriveront pas vont disparaître. On va être dans cette dynamique schumpeterienne. Et je pense que ceci a commencé dans la distribution il y a plusieurs années aux États-Unis. Hein, les grands distributeurs dans ce qui n'est pas alimentaire. L'alimentaire, c'est particulier, parce que l'alimentaire, ça reste quand même quelque chose qui se fait dans un magasin. Mais tout ce qui est non alimentaire souffre considérablement. Et la cause de la souffrance, c'est Amazon hein, et les autres distributeurs sur Internet.
Vous êtes certain de ça ? Parce que Castorama, Brico Dépôt, qui supprime 409 emplois, je connais bien les magasins de bricolage. Et, généralement, on n'achète pas des produits de bricolage sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave que cela, par exemple le fait que les actionnaires en demandent plus et que du coup on comprime les salaires et le nombre d'emplois ?
Non, je ne crois pas, en tout cas la France est un peu particulière dans le capitalisme occidental puisque la norme du capitalisme occidental depuis 20 ans ça a été de déformer le partage des revenus au détriment des salariés, mais il y a deux exceptions qui sont la France et l'Italie. Et en France, ce qui rend d'ailleurs le débat français compliqué, parce que quand on parle des États-Unis, il faut dire clairement qu'on ne parle pas de la France, quoi, parce qu'on n'est pas dans le même environnement. Donc je ne crois pas, non, honnêtement, je suis assez inquiet, parce que je pense que ceci revient au point qu'on abordait tout à l'heure. Pourquoi, alors qu'on a le digital, les nouvelles technologies, les gains de productivité n'ont-ils pas augmenté ? Et une réponse possible, c'est que justement, on n'a pas déclenché le processus de renouvellement des vieilles entreprises par les nouvelles. Il y a certains auteurs dans le monde universitaire qui disent que d'ailleurs, les politiques monétaires très expansionnistes jouent un rôle ici. C'est-à-dire que les taux d'intérêt à zéro ont maintenu artificiellement en vie des entreprises qui auraient dû disparaître normalement.
Parce que ça permet
Ça permet de se financer, de s'endetter pas cher, de payer moins d'intérêt sur ses dettes, etc. Et que donc, ce remplacement des vieilles entreprises par les nouvelles a été arrêté, en fait, par les taux d'intérêt zéro. Et que la normalisation des politiques monétaires va déclencher ce processus de disparition des vieilles entreprises.
Mais alors, attendez, parce que j'ai quand même une question brutale à vous poser, Patrick Artus. Toutes les lois qui sont faites sur le licenciement par Emmanuel Macron, elles consistent finalement à dire on va pouvoir licencier moins cher. Licencier moins cher en économie, ça veut dire qu'on va licencier plus.
En général, quand ça a été fait dans d'autres pays dans le passé, il y a deux temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps où effectivement on ajuste l'emploi. C'est-à-dire on pouvait pas ajuster l'emploi et comme le coût de licenciement devient plus faible, on ajuste plus vite l'emploi. Et il y a un deuxième temps où ce qu'on attend normalement, c'est ce qu'on a vu en Allemagne par exemple très clairement, hein, quand on change les règles du marché du travail avec les réformes Hartz hein, au début des années 2000, il y a d'abord des pertes d'emplois, une très forte hausse du chômage et puis ensuite il y a beaucoup de création d'emplois. Donc en général, on a deux temps. temps, quand on fait ces réformes, on perd d'abord des emplois, puis on en regagne. Mais à nouveau, est-ce qu'on a une rupture considérable sur les règles du marché du travail en France? La réponse est non.
Le fait, par exemple, de plafonner les prud'hommes.
Oui, mais enfin, je veux dire, en réalité...
Ou alors, dans ce cas-là, ça valait pas le coup...
Non, mais je veux dire, il faut se rendre compte qu'il y a les licenciements économiques qui sont concernés ici, c'est un tout petit peu plus de 2% des causes d'entrée au chômage. Donc c'est un tout petit bout, c'est très petit. Les entrées au chômage, c'est quoi le vrai problème du marché du travail en France? C'est pas le coût des licenciements, c'est pas les licenciements économiques, c'est les contrats courts. L'ajustement du marché du travail, il se fait par l'arrêt des CDD et des contrats d'intérim. Et donc, le vrai problème du marché du travail français, c'est pas cette flexibilisation.
Les lois El Khomri, les gouvernements se sont-ils échinés à faire passer ces lois-là si, selon vous, finalement, c'est pas ça, en fait, qui permet un ajustement?
Mais l'ajustement du marché du travail en France, à nouveau, il se fait... Regardez pourquoi les gens sont chômeurs. Les gens qui sont chômeurs en France, c'est pour leur très très grande majorité, parce qu'ils ont... leur CDD ou leur contrat d'intérim s'est arrêté. C'est pas qu'ils ont été licenciés, ni qu'ils ont démissionné. Et donc le vrai sujet du marché du travail en France, c'est l'allongement des contrats les plus courts. Et c'est pour ça qu'il faut que la réforme de l'UNEDIC, par exemple, où on va travailler cette question des contrats très courts, est très importante.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on est donc dans le premier temps, c'est-à-dire le temps où on va supprimer des emplois en espérant, parce que après tout rien n'est écrit, Patrick Artus, en espérant que dans un second temps il va y avoir à nouveau des créations d'emplois.
Et encore que les deux temps peuvent se superposer, parce qu'on a, créé 250 000 emplois dans le secteur privé l'année dernière en France. Donc on ne peut pas dire que la France est un pays où, au contraire, on est surpris du nombre d'emplois créés. Mais je reviens à nouveau sur ce que nous disions avant les informations. Ces emplois participent à la bipolarisation du marché du travail. On crée des emplois, beaucoup, dans les services peu sophistiqués, dans les services domestiques, dans le transport, dans certaines distributions, qui sont les distributions sur Internet, dans les restaurants, dans les loisirs, et dans la sécurité.
Alors justement, dans ces conditions, est-ce que l'on peut dire qu'en France aussi, on va avoir affaire à deux classes, des très riches de plus en plus riches, d'ailleurs l'ISF a été allégé, et des très pauvres qui vont avoir des emplois dans les services, c'est-à-dire un modèle de plus en plus conforme à ce que l'on voit aux États-Unis.
Moi, je suis économiste. Il me semble que les économistes doivent travailler sur un certain nombre de questions qui sont centrales pour nos sociétés. La première question, on l'a évoquée il y a 3 minutes, c'est est-ce que les gains de productivité qui devraient aller avec les nouvelles technologies vont finir par arriver? Et si on ne le croit pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Cette fois-ci, les nouvelles technologies ne fabriqueraient pas un supplément de gains de productivité, donc de revenus, etc. C'est un vrai sujet, parce que si nous avons ces gros ajustements technologiques sans supplément de gains de productivité, il y a une question très compliquée. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on est confronté pour la première fois à une espèce de révolution industrielle, appelons ça une révolution industrielle, mais qui n'a pas les mêmes effets que celle du passé.
C'est-à-dire ?
Dans le passé, les révolutions industrielles transformaient des emplois en emplois plus sophistiqués, de revenus plus élevés. La première révolution industrielle en Angleterre, au début du 19e siècle, transforme les paysans artisans en ouvriers d'usine. Alors certes, la vie des ouvriers d'usine n'était pas drôle du tout, mais on sait aujourd'hui que leur revenu était considérablement plus élevé que celui des paysans artisans. Et quand les paysans français, après la Seconde Guerre mondiale, partent dans l'industrie ou dans les services, massivement, 30% de la population active en 1945 sont des paysans. Aujourd'hui, c'est 2%. Et bien évidemment, leur niveau de revenu est beaucoup plus élevé. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il semblerait que nous avons une révolution industrielle qui transforme des emplois en emplois moins sophistiqués et moins bien payés. Aux États-Unis, où on dit les choses un peu brutalement, on dit que Monsieur Smith, il était employé chez General Motors et après, maintenant, il est chez Starbucks. Et ça raconte bien cette réalité. Et donc, le vrai problème, à mon avis, des gouvernements et des politiques de revenus qu'on va avoir dans nos pays, c'est qu'est-ce qu'on fait si, effectivement, nous sommes en face d'une révolution technologique qui dégrade la qualité des emplois.
Et on le voit, par exemple, avec les banques. Hier, il y avait des guichets. Aujourd'hui, on a de plus en plus la faculté de faire des choses sans passer par le guichet. Je vois par exemple la diffusion du paiement par smartphone, qui n'est même plus faite d'ailleurs par des banques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous imaginez du coup pour l'avenir, Patrick Artus? Que vont devenir ces emplois qui sont des emplois de la classe moyenne, qui probablement vont être supprimés? Est-ce que vous voyez la création d'autres emplois? Puisqu'on n'arrête pas de parler de destruction, création, mais si on voit la destruction, eh bien, c'est compliqué de percevoir la création dans ce domaine.
Alors, toutes les thèses circulent. C'est-à-dire qu'on est tellement tôt dans ce processus qu'on peut écrire à peu près tout et son contraire. Il y a des gens qui expliquent que l'intelligence artificielle va détruire l'emploi, mais ils le voient de façon assez positive, en disant finalement les robots vont faire ce que nous faisions avant, donc nous serons dans une civilisation de loisirs. Il y a des gens qui disent qu'il va arriver énormément de création d'emplois dans de nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle, la conception, l'entretien, l'environnement de l'intelligence artificielle. Et puis, je suis plutôt de la troisième école qui dit que le problème n'est pas un problème de chômage. Au contraire, les pays les plus avancés, par exemple la Corée, ont des taux de chômage très faibles. Le problème est un problème de la nature des emplois, de la structure des emplois, et qu'on est plutôt, il me semble, hein, mais à nouveau, il faut être extrêmement prudent, parce que tout ceci a commencé il y a moins de 10 ans, hein, en réalité. On est plutôt dans une dynamique où, comme ce que vous venez de dire, on détruit les emplois répétitifs intermédiaires et on crée un petit nombre d'emplois en haut de gamme qui sont des emplois non répétitifs sophistiqués et on crée beaucoup d'emplois en bas de gamme qui sont non répétitifs, non sophistiqués, quoi.
Et donc du coup, est-ce que tout le discours, par exemple, qui consiste à dire, bah voilà, il faut mieux former les gens, il faut former les chômeurs, notamment tout au long de leur vie pour que ceux-ci retrouvent un emploi, est-ce que c'est un discours?
Oui, alors ça reste vrai. Il y a deux choses qui sont absolument claires en France. Vous, je savais pas qu'Emmanuel Macron avait repris mon estimation qui était que le taux de chômage structurel était de 9% en France. On a un énorme problème d'absence de reformation, de requalification des chômeurs en France. Il est vrai que c'est absolument horrible de penser qu'on a 9,5% de chômage et que les entreprises nous disent dans toutes les enquêtes qu'elles n'arrivent absolument pas à embaucher. Et donc, évidemment, il faut faire un effort de requalification des chômeurs. On ne dépense que 12% de l'argent de la formation professionnelle en France pour requalifier les chômeurs. Dans les pays nordiques, c'est la moitié. Donc, évidemment, le gouvernement a raison de pouvoir mettre un énorme paquet sur cette question-là.
Et puis, il faut voir aussi dans quelle mesure la formation professionnelle est un système efficace, même s'il coûte très cher.
Oui, mais il faudrait. Mais ce qui est normalement prévu, c'est bien de faire des choses efficaces pour ramener à l'emploi les chômeurs de longue durée.
Vous y croyez?
Oui, je pense que c'est assez. Je pense que on a l'organisation la pire aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut former les gens aux emplois qui se créent. Qui sait quels emplois se créent? Les collectivités locales à un niveau fin, les bassins d'emploi et les entreprises. Donc si on fait gérer ce système par les collectivités locales à un niveau assez fin et par les entreprises, je pense qu'il marchera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et puis la question que vous posez par contre est extraordinairement compliquée et intéressante sur les jeunes. Le diplôme est la protection absolue contre le chômage. Le tiers des Français les plus diplômés ont un taux de chômage qui oscille entre 4,5 et 5%, qui dépend très peu du cycle économique. Donc évidemment, il faut que les jeunes se diplôment. Mais d'un autre côté, les emplois concrets sont des emplois qui ne nécessitent pas des qualifications très très importantes. Donc vous avez quelque chose qui va être extrêmement compliqué, qui va être la poursuite du mouvement où les jeunes vont faire des études longues, avoir des diplômes, et un marché du travail qui a l'air, à nouveau je prends beaucoup de précautions, mais qui a l'air de créer des emplois extrêmement peu sophistiqués. Et donc on a une dynamique aujourd'hui sur le marché du travail pour les jeunes qui est assez épouvantable, c'est que les jeunes diplômés, pour pas mal d'entre eux, sont obligés de prendre des emplois qui correspondent pas réellement à leurs qualifications. Et du coup, ils évincent de l'emploi les moins diplômés. Et du coup, on arrive avec 17% de chômage pour les moins diplômés.
Si vous aviez des conseils à donner justement à des jeunes, je ne sais pas si vous avez des enfants, quel âge ils ont, Patrick Artus, mais justement, qu'est-ce que vous leur conseilleriez en matière d'études, de cursus, pour être sûr d'avoir un emploi? Parce que là aussi, on se demande si des qualifications qui jadis étaient des qualifications qui assuraient d'avoir un emploi ne vont pas disparaître du fait de l'automatisation ou du fait de l'apparition de l'intelligence artificielle, terme un peu vague, qui désigne toutes sortes de choses.
Oui, mais je crois qu'il faudrait peut-être que le système éducatif français évolue dans le sens de ce qu'on voit dans d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, c'est-à-dire que le système éducatif n'est pas fait pour former les gens précisément à un emploi. Le système éducatif, il est fait pour former des gens à avoir un emploi. Je suis assez étonné de voir, quand je discute avec les salariés de ma banque, par exemple au Royaume-Uni, de voir la variété des profils. Vous avez des historiens, des théologiens, des gens qui ont fait des maths, des chimistes, enfin des géologues. Et donc, je crois qu'il faut aussi se dire que finalement, ce qui importe, c'est plutôt d'apprendre à apprendre. Hein, et on est encore dans un système éducatif, à mon avis, où on apprend des recettes plutôt que d'apprendre à apprendre.
On a en tout cas l'impression de vivre dans un monde qui est extraordinairement mouvant et qui est du coup assez inquiétant. Alors, je le disais tout à l'heure, avant, il y avait les banques qui faisaient la banque. Maintenant, on voit que une entreprise, je ne vais pas nommer son nom pour ne pas lui faire de pub, mais une entreprise peut permettre de payer avec son téléphone portable. On voit des petites affichettes dans les boulangeries.
En général, ces entreprises-là sont rachetées par les banques après. Hein.
Bon, ça, je ne sais pas ce qui va se passer.
À la fin, ça devient des banques.
Ça devient des banques peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant,
de banques.
Pour l'instant, en tout cas, ce ne sont pas des banques encore. Et puis, on a appris avec le Bitcoin, auquel les auditeurs commencent à être de plus en plus familier, on a appris qu'il pouvait y avoir des créations de monnaie privée, c'est-à-dire que une bande de copains peut décider de créer une devise et cette devise, eh bien, elle peut devenir un fait mondial. Est-ce que ça veut dire que vraiment une monnaie privée, ça peut exister, Patrick Artus ?
C'est très intéressant ce qui se passe avec les crypto-monnaies, hein, parce que c'est une réaction contre ce dont nous parlions avant, c'est-à-dire contre les banques centrales que nous avons. La philosophie des crypto-monnaies, c'est les banques centrales ont fait n'importe quoi. Vous savez que la quantité de monnaie créée par les banques centrales, hein, le stock de monnaie, est 12 fois plus élevé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc on a des banques centrales qui ont laissé exploser la quantité de monnaie et donc il s'est développé une philosophie aussi bien d'ailleurs très à droite que très à gauche, hein, des deux côtés, qui dit ben, on veut que l'État ne se mêle plus de la monnaie qui devient une affaire des citoyens. Donc on veut des monnaies privées qui ne sont pas manipulées par les États. Ouais, j'ai pas mal de sympathie avec cette approche. Effectivement, si les banques centrales avaient été plus sérieuses et n'avaient pas fait exploser la liquidité avec tous les ennuis qui vont avec, on aurait sans doute moins envie de retirer la monnaie des mains de l'État. Le problème, c'est que ça marche pas.
Pourquoi ça marche pas ?
Ça marche pas parce que malheureusement, il faut gérer une monnaie. Une monnaie, c'est une offre de monnaie. Donc, vous mettez en circulation quelque chose, Bitcoin, si vous voulez, hein, ou des euros. Hein, et en face, une demande de monnaie. Il y a des gens qui veulent en détenir ou qui veulent l'utiliser pour acheter des biens. Et si vous ne gérez pas la quantité qui est offerte, ce qui est le cas avec le Bitcoin, hein, il y a une quantité qui est pratiquement stable maintenant, eh bien vous avez, quand les gens veulent en détenir plus, les prix explosent vers le haut, et quand les gens veulent en détenir moins, les prix s'effondrent. Donc vous arrivez avec ce qu'on a vu sur le Bitcoin, hein, les prix qui montent à 20 000 dollars, qui retombent à 6 000 dollars, qui remontent à 8 000 dollars, et donc il faut gérer une monnaie. Malheureusement, les gens qui créent des monnaies privées, c'est pas leur philosophie. Leur philosophie, c'est justement que en réaction aux États qui gèrent mal les monnaies, il faut des monnaies qui ne sont pas gérées. Donc la quantité de monnaie qui est fabriquée, qui est offerte, n'est pas manipulée par quelqu'un. Elle est juste ce qu'elle est, quoi.
Et alors du coup, c'est quoi ? C'est un gadget, le Bitcoin ?
Du coup, ça ne peut pas marcher. Même si, à nouveau, on peut avoir de la sympathie pour la philosophie, hein, qui est de dire le jour où nous aurons des banques centrales sérieuses, on reviendra aux vraies monnaies, ça peut pas marcher parce que la volatilité des prix va être absolument ahurissante. Est-ce que vous avez envie de mettre l'argent de votre retraite dans un truc dont le prix peut être divisé par 3 en une semaine, quoi ?
Beaucoup de gens ont mis l'argent de leur retraite à la bourse.
Oui, ils ont eu tort.
La bourse,
elle est quand même rarement divisée par 3 en une semaine.
Non, elle est pas divisée par 3.
Non, mais on met pas l'argent des retraites en bourse. On en met un tout petit bout, mais là, vous voyez, on crée intrinsèquement quelque chose qui d'abord attire tous les spéculateurs de tout poil, ce qui n'est pas très sympathique, mais par ailleurs qui crée une énorme volatilité. Alors, bien entendu, les premiers à s'en être émus, vous avez vu, sont les Chinois et les Coréens, mais vous créez quelque chose qui est profondément déstabilisant.
Patrick Artus, alors vous êtes membre du comité exécutif de Natixis, qui n'est pas précisément un organe de la décroissance, mais justement, avec le Bitcoin, avec tous ces phénomènes qui sont des phénomènes hautement spéculatifs, puisque on voit bien finalement, comme vous venez de le dire, que les cours augmentent, baissent, bref, que ça n'a pas véritablement de rationalité. Est-ce que ça n'est pas le signe que ce système marche sur les mains et que finalement, il faudrait aller vers un autre système, vers une forme de décroissance ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de plus rationnel et peut-être de plus sage que ce mouvement sans fin ?
Non, mon analyse est de dire nous avons la conjugaison de deux facteurs qui créent le danger. Le premier, c'est l'exigence de rentabilité du capital anormalement élevée. Alors, on avait écrit avec ma camarade Marie-Paul Virard il y a très longtemps un livre qui s'appelait « Le capitalisme est en train de s'autodétruire » où on racontait déjà cette histoire. On va sortir au mois d'avril un livre, on reparle de ça d'ailleurs. Aujourd'hui, et c'est surtout... Alors évidemment, il faut être très prudent, parce qu'il y a des modèles de capitalisme très différents, et je parle surtout ici du capitalisme de, anglo-saxon ou américain. Mais quand les entreprises américaines veulent 15% de rendement de leurs fonds propres, alors que l'État américain se finance à 3%, on voit qu'il y a un problème. Quoi. Et en plus de ça, vous mettez... associé à ça, des banques centrales qui créent des montagnes de liquidités. Et donc, évidemment, vous créez une tentation qui est irrésistible, qui est d'emprunter cette liquidité très abondante et très bon marché pour spéculer, quoi, je dirais. Donc, pour obtenir les rentabilités du capital qu'une activité économique normale, normalement, ne peut pas vous fournir.
Et justement, vous dites, je m'intéresse au capitalisme anglo-saxon et c'est lui que je pointe quand donc je souligne ses paradoxes et ses contradictions. Est-ce qu'on n'est pas en train justement d'emboîter le pas à ce capitalisme anglo-saxon?
J'ai pas l'impression. J'ai quand même l'impression.
Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Qu'est-ce qui distingue?
J'ai l'impression que l'Europe est en train de réfléchir. Regardez la. Tous les débats qu'on a, la commission avec Sénard qui doit rendre son rapport au gouvernement français hein, sur la gouvernance des entreprises, tous les débats que nous avons sur à quoi ça sert vraiment une entreprise, qui sont les vrais partenaires.
Non mais ça, ce sont des débats, mais de l'autre côté, il y a par exemple tout un discours sur la diminution du nombre de fonctionnaires, le fait qu'on va prendre des contractuels, le fait que l'ISF est aujourd'hui...
C'est un peu un autre sujet. Enfin, mon sujet est de dire... je pense que nous avons les premiers signes, y compris dans la finance. Regardez ce qui se fait dans la finance verte. La finance verte, ça n'a pas été organisé par la loi ou par les États. Il se trouve qu'il y a des gens qui gèrent de l'argent et qui ont décidé qu'ils allaient privilégier un certain nombre d'investissements dans des entreprises du secteur des énergies renouvelables ou qui ne faisaient pas des choses épouvantables avec le charbon, etc. Et c'est un mouvement qui est venu des acteurs eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas lié à une régulation. Et je pense que dans les entreprises, il y a aujourd'hui une réflexion sur il faut associer les partenaires de l'entreprise. Entreprise, ça passe pas forcément par un changement de la nature des conseils d'administration, ça peut passer par d'autres coordinations avec les salariés, avec les collectivités locales. Il y a plein de grandes entreprises qui font ça, avec des actions de terrain sur la formation des jeunes. Enfin, donc je pense que ce débat que nous avons là, il est absolument invraisemblable aux États-Unis. Vous n'avez pas expliqué mais aux États-Unis, une entreprise sert à verser 15% de rendement à ses actionnaires.
Oui, mais il y avait quand même l'idée, par exemple, qu'en France, la fonction publique était importante parce que justement, on avait une partie de l'économie qui était financée de manière collective. Si on décide, par exemple, d'embaucher des fonctionnaires de manière contractuelle, on va changer ce modèle-là. C'est quand même important. Alors, même si ça n'est pas...
Honnêtement, moi, ça me choque pas. Honnêtement, ça me choque pas. Je pense qu'il faut une vraie réflexion sur le périmètre de l'État. De toute façon, l'État doit se concentrer. On voit bien dans une situation de rareté de l'argent public, hein, qui n'est pas que française, l'État doit se concentrer sur ce qui fait mieux que le secteur privé. Le danger est dans les deux sens, c'est-à-dire de faire à l'État des choses que le secteur privé serait mieux, ou pour des raisons idéologiques, de privatiser des choses que l'État fait mieux que le privé. Mais je crois que la réflexion profonde sur quel est le bon périmètre de l'État, il faut l'avoir.
Mais regardez, sur toute une série d'activités, l'État, il fait quelque chose de distinct du privé puisqu'il ne fait pas de bénéfice quand il fait quelque chose. Si vous allez dans un hôpital public, l'hôpital public, il fait pas d'argent sur votre dos. Est-ce que ça, justement...
Oui, mais honnêtement, c'est pas forcément une bonne idée. Je veux dire, c'est toute une question d'incitation. Hein, les hôpitaux publics, on le voit bien aujourd'hui, ont des problèmes de gestion, d'efficacité. On sait qu'on fait beaucoup trop d'opérations, beaucoup trop d'actes. Donc la gestion du secteur public, elle peut être très mauvaise aussi.
Mais je veux pas vous faire de réponse facile, mais si on prend par exemple le système américain, le système de santé américain.
Le système de santé américain est catastrophique en étant
privé. Et il est privé.
Mais le système allemand ou canadien qui est privé est très bon. Donc si vous voulez, il y a pas de règles général. On ne peut pas dire ceci est mieux fait par l'État ou par le privé. Je crois qu'il faut regarder précisément. Et c'est une question après du système incitatif. Aux États-Unis, on a laissé se mettre en place un système terrifiant où l'intérêt des assureurs et du système de santé est que la santé soit chère. Parce que du coup, les assureurs perçoivent des primes plus élevées. Évidemment, c'est une gestion qui est catastrophique. Mais je pense honnêtement que notre vrai problème n'est pas celui-là. Notre vrai problème est-ce que nous allons être capables de fabriquer une espèce de capitalisme européen qui n'aura pas les travers du capitalisme américain. Et deuxièmement, est-ce que nous allons être capables de fabriquer des banques centrales qui vont revenir à l'objectif profond qu'elles devaient avoir, qui est nous donner la bonne quantité de liquidités, et ni trop ni pas assez.
Et pensez-vous que la France est dans ce système capitaliste européen que vous tentez d'entrevoir, Patrick Artus? Est-ce que vous pensez que la France pèse suffisamment pour imposer sa manière de voir, par exemple, à l'Allemagne?
La France a la chance, je crois, d'avoir de très grands groupes. Vous savez qu'il y a le CAC 40, il y a 20 leaders mondiaux de leurs industries. C'est une spécialité française. Regardez l'Italie, il y a très peu de grands groupes. En Allemagne, il y en a moins qu'en France. Et donc, si les grands groupes français commencent à dire, mais ça passera aussi par le fait que les grands groupes français appartiennent davantage à des Européens. Hein, parce que si nos actionnaires dans les grands groupes sont tous américains, évidemment, les choses seront compliquées. Et je pense que, oui, la France peut jouer un rôle moteur en raison de ce qui est de cette existence d'énormes groupes internationaux très puissants et qui sont français.
Donc, du coup, vous êtes plutôt confiant dans la situation française ?
Alors, je reviens juste une minute.
Non, mais
je crois que le vrai sujet en France, on peut parler de toutes les réformes, il y a la réforme de la fiscalité, du code du travail, etc. Le vrai sujet, ce sont les compétences. À nouveau, à 9,5% de taux de chômage, les entreprises déclarent qu'elles n'arrivent absolument plus à embaucher. Ceci est absolument terrifiant. Donc les seules réformes vraiment importantes, c'est les réformes sur les compétences, sur la formation, sur l'apprentissage.
Et sur la capacité aussi des entreprises embaucher. Parce que quand vous disiez tout à l'heure, et je l'ai noté aussi, dans une banque à l'étranger, on trouve des gens qui ont fait de la géologie et de l'histoire. En France,
Je suis d'accord. Il va falloir que les entreprises s'approprient la formation. Et considère pas qu'il y a un système public qui leur livre les gens qui vont travailler mardi s'ils sont embauchés le lundi. Il faut que les entreprises se réapproprient la formation. Je suis absolument d'accord avec ça.
Merci beaucoup Patrick Artus d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste et membre du comité exécutif de Natexis.